Toujours bien en votre présence sur les 93.6. J'espère que tout va bien de votre côté. Ici, c'est Radio Bulle, rythme la Genève, mais pas que. Je fais un petit clin d'œil, même un gros bisou à nos amis de Lectour, du Gers, aussi nos auditeurs du Tarn et Garonne. Je ne vous oublie pas, vous le savez. Et on vient vous voir très, très rapidement. Merci de votre fidélité. La chronique Faites entrer l'artiste, c'est le vendredi matin. En principe, je suis accompagnée de Jean-Paul Delvor, qui lui-même est un artiste. Vous le savez. Et en fait, ces derniers temps, il est quand même pas mal sollicité. Et victime de son succès, on le sait, victime surtout de son grand talent. Et donc, du coup, j'ai quand même un peu de chance parce que je prends à bras le corps cette belle série de chroniques sur cette bulle Faites entrer l'artiste, plutôt, qui est dédiée tout au long de ce mois à Fanny Paloma Escobar. Bonjour Fanny.
Bonjour.
On rappelle ton actualité. Tu réalises un long métrage qui s'appelle donc Pilleur de terre. Oui. Et qui a une petite actualité, les amis, ouvrez l'agenda, après on va continuer à te découvrir, on a commencé la semaine dernière et c'était super. Donc, demain, après-demain, 7 et 8 mars, vous avez une projection au Rex de Tonneins. Et ensuite le 27 mars, le vendredi 27 mars, pour le Festival des droits humains, projection au Montreur d'images.
Tout à fait.
À Agen. Donc ça... C'est posé, c'est dit, vous l'avez noté. La semaine dernière, Fanny, donc on t'a découverte, jeune comédienne, dans les années à peu près, je ne sais pas, 2020, c'est ça ? Quand est-ce que tu étais en Angleterre quand t'as...
Alors, j'ai dû partir en 2011.
2011, oui. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu restes combien de temps là-bas en Angleterre ?
Je reste 5 ans.
Tu restes 5 ans. Et là-bas, tu as un petit peu cette révélation de te dire « je ne vais pas passer mon temps à attendre après les rôles, je vais être actrice de ma vie en fin de compte.
Exactement.
Et je vais me projeter vers les autres. »
Oui, tout à fait.
Et donc là, tu pars comme une grande, parce que je te le dis à toi, mais je le dis surtout aux auditeurs, moi tu m'impressionnes en fait, parce que tu n'as pas peur. Et on va le voir en fait dans la façon dont tu as construit ce long métrage, que tu as quand même pris des risques. Et là, à ce moment-là, tu prends le risque de dire « bon ben, je pars d'Angleterre, je donne un autre aspect à ma carrière et je file en Espagne. » Qu'est-ce pas à ça ? Pourquoi ?
Alors, en fait, il se passe quelque chose d'assez fort en moi à ce moment-là. C'est que je sens que, ne faisant pas le poids face à cette industrie du cinéma dans laquelle finalement j'ai pas mes entrées, j'ai pas assez de rôles, je ne comble pas ma passion.
Tu m'avais dit pendant la préparation, j'avais pas les codes.
Oui, ouais. J'avais pas les codes, je viens pas d'une famille d'artistes et, et voilà, j'étais un peu en solo dans tout ce monde qui est quand même un monde de requins. Je suis partie en plus à l'étranger toute seule, j'ai appris l'anglais là-bas.
Wow.
Pour pouvoir prendre des cours d'acting en anglais. Donc bon, voilà, il me manquait quand même quelques codes et ça commençait à me taper sur les nerfs et à me faire du mal finalement. Mais je voulais pas me fâcher avec mon art,
ouais.
Même si je comprenais pas l'industrie ou même si j'y avais pas ma place à ce moment-là. Donc je décide de conserver cette passion en la transformant. Et j'avais passé du coup la grande partie de ma vie à Paris et à Londres, qui sont ces grandes métropoles où tout se passe, soi-disant. Mais finalement, pour moi, ça ne se passait pas comme je voulais. Et j'avais toujours voulu vivre à Barcelone. J'adorais cette ville. À chaque fois que j'y mettais les pieds, j'y partais des fois en week-end pour m'échapper un peu. Je m'y sentais extrêmement bien. Et je me suis dit, et si finalement, je n'allais pas où on me demande d'aller, où on me dit que je vais réussir, mais là où je me sens bien. Parce que peut-être si je me sens bien, je réussirai mieux finalement.
Ouais.
Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'y suis allée et je m'y suis sentie mieux. Et j'ai pu commencer à me concentrer sur ce projet de documentaire Pilleur de terre. J'ai vécu à Barcelone pendant 7 ans, mais j'y travaillais un peu aussi. Si, j'y ai travaillé pendant des années, mais je travaillais aussi beaucoup à l'étranger. C'est surtout que je m'y sentais bien d'y vivre.
Ouais. Et toi qui as des racines chiliennes par ton père, est-ce que la barrière de la langue, du coup, elle s'est... Tu savais, tu parlais bien l'espagnol ou comment c'était ?
Je parlais, mais je parlais pas bien.
D'accord, ok.
En fait.
Ouais.
Et justement, là-bas, je me suis fait beaucoup d'amis dans la communauté latino-américaine. Mm-hmm. Et c'est quelque chose qui me manquait. Et en fait, finalement, j'ai perfectionné mon espagnol avec la communauté latino-américaine de Barcelone. Et enfin, c'est drôle.
Mais on est toujours sur ce chemin, sur une quête, sur les racines, mm-hmm. et qui transpire, en fait, désolé du terme, mais dans ton œuvre, on le rappelle que, je le redis, les amis, parce que c'est une actualité chaude, Pilleur de terre, c'est ton long métrage, donc, et on va, pour nos amis auditeurs qui étaient peut-être pas là la semaine dernière, rappeler le pitch et comment, en fait, tout ça s'est mis en place, parce que ça naît aussi d'une rencontre.
Oui, en fait, je rencontre des communautés autochtones au Cambodge qui s'appellent les Bunung et dont les terres ont été accaparées par une multinationale agro-industrielle et qui se rendent compte peu à peu que la maison mère de cette multinationale est le groupe Bolloré en France. Et ils vont entamer un procès contre ce groupe Bolloré et vite être rejoints par des communautés autochtones au Cameroun et ils vont allier leur lutte. Et tout ça est rendu possible grâce à une loi française, donc j'ai suivi tout ça et documenté tout ça pendant 5 ans.
Tu as rencontré un avocat qui était parti pris dans cette affaire ?
Oui, c'est l'avocat des plaignants dans les deux pays, qui lui est français et qui lui-même en fait, a eu vent de cette histoire après que le message soit passé d'ONG en ONG, d'un pays à l'autre. Et finalement, lui, il a décidé de s'y engager et ça ne lui faisait pas peur. Et il l'a suivi les deux et c'est lui qui a pu relier les deux procès en fait.
Ça fait quoi de donner une voix à ceux qui n'en ont pas, en fait ? Qu'on n'entend pas, en tout cas.
Ben c'est exactement ça, effectivement, le projet, en tout cas, de transporter leur message. Moi, c'est parti de l'idée, en fait, d'une question. Je me demandais, en fait, qui nous raconte les histoires ? Et qui a le droit de nous raconter les histoires ? Et d'où viennent les récits que j'entends ? Et donc, dans ma volonté d'aller écouter leurs récits... Et j'ai eu envie que les autres les entendent aussi et voir jusqu'où on pouvait ouvrir notre vision, notre regard sur le monde et sur les choses. Je pense que c'est important de toujours se rappeler qu'il n'y a pas une seule manière d'être au monde.
C'est des gens qui parlent un dialecte. C'est des gens dont dans la vie, tu étais très éloignée. En fin de compte, il n'y a rien qui fait, à part cette volonté féroce que tu as, qui est chevillée au corps, d'aller donner la voix aux autres, d'aller questionner la question des racines. Parce qu'eux, ils sont quand même sur leur terre ancestrale, ils s'en sentent dépossédés. Ouais. Ça amène en fait un écosystème qui est totalement différent. C'est une culture qui est bouleversée, c'est des habitudes, etc. Tu es partie les voir dans leur environnement, loin du tien. Il y a la communication qui doit pas forcément être aisée parce que ils parlent une langue que tu connais pas. Comment tout ça s'est fait ? Parce que ça doit faire peur à un moment donné de traverser telle et telle rizière ou je sais pas comment ça s'est passé et te dire mais je suis vraiment très loin de chez moi là en fait.
Oui, en fait, c'est pas sans la distance avec chez moi qui m'a fait peur, mais effectivement, de ne pas comprendre les codes. Déjà
des
dans
univers,
un
en fait, la distance des univers, pas
oui.
au
oui,
sens
c'est
premier
ça, c'est
du
le
terme.
Choc, le choc un peu culturel. Mmh. Et aussi, d'ailleurs, parfois un sentiment d'imposture, en fait, dans les premiers temps. Ouais. Parce que quand j'y suis arrivée, autant j'avais ma passion, ça fonctionnait, mon envie de savoir, ça fonctionnait jusqu'à ce que je sois sur place et que je me demande est-ce qu'en fait... Est-ce que je suis bienvenue à traiter ce sujet ? Et tous ces questionnements, en même temps, il fallait que je réponde à ces questions avec ces mêmes personnes avec qui j'avais peut-être la barrière de la langue. Donc, il a fallu, moi, que je m'instruise. J'ai rencontré des personnes qui ont pu me fournir des thèses qu'ils avaient fait en étudiant la situation sur place. Puis, j'ai rencontré d'autres personnes sur place qui se sont proposées de me faire une traduction. Et petit à petit, j'ai exposé mon intention et les gens m'ont exposé leurs histoires. Et voilà, j'ai été invitée à revenir et j'ai trouvé ma place dans tout ça. Mais c'est sûr que par plein d'aspects, j'ai eu peur de mal faire surtout.
T'as été bien accueillie quand t'es arrivée comme ça ou est-ce qu'on t'a regardée comme une ovni en disant mais qu'est-ce qu'elle veut ? Parce que peut-être que c'est des gens qui, même s'ils étaient dans une procédure judiciaire, enfin juridique, etc., qui avaient peut-être pas encore tout compris ce qui leur arrivait.
Un peu les deux. Un peu les deux. Il y a eu même parfois un peu de l'indifférence. Ouais. Quand je suis venue aux côtés de l'avocat, je pense que j'ai été identifiée à sa venue. Par ailleurs, les gens sont de toute façon méfiants dans cette situation parce qu'on leur ment, parce qu'ils sont face à des entreprises qui envoient des personnes leur parler pour leur proposer des médiations, tout un tas de choses qui ne mènent à rien, qui sont des mensonges. Donc ils voient passer de nombreux visages En plus, là-bas, il y a beaucoup de Français. Je pense que dans un premier temps, ils ne savent pas vraiment à quoi s'en tenir. Et forcément, ce n'est pas les bras ouverts qui vont se confier. D'ailleurs, il y en a aussi, par exemple, il y a des petits documentaires qui avaient été réalisés. Et les gens pouvaient avoir envie peut-être de répéter ou de ne pas dire certaines choses parce qu'ils avaient vu que c'était mal utilisé.
Okay.
Donc, pour aller à la sincérité, ça a pris du temps.
Et ça t'a pris 3 voyages au Cameroun, 5 fois au Cambodge aussi. Oui. Et donc, ça donne ce long métrage... Pilleur de terre, qui est un terme très fort. On en parlera, on saura comment il était venu. Là, tu t'interroges quand même l'héritage, les terres, les écosystèmes, l'industrialisation, peut-être même une sorte de colonisation industrielle,
oui.
Quelque part.
Oui, bah, le film pose la question de la continuité. D'une approche colonialiste.
Ah ben bah tu vois, bah ok, d'accord.
Du commerce.
Je ne l'ai pas encore vu, moi, j'attends les projections là qui arrivent. Mm-hmm. D'accord, ok.
Le néocolonialisme est au cœur de l'affaire. Mm-hmm. Et ce que j'ai voulu questionner, c'est comment est-ce qu'on va évoluer avec nos systèmes de commerce, avec nos systèmes économiques et les désastres que peuvent créer cette vision à sens unique. Alors qu'effectivement, sur la Terre, il y a des personnes qui utilisent les territoires comme un commun. Et donc, comment est-ce qu'on peut respecter ces personnes qui vivent sur place si on n'applique qu'un seul regard qui prend la propriété privée comme seule norme pour qui est ce commerce ? Voilà.
Et c'est la question du point de vue sur les cultures, sur l'environnement. Effectivement, si on interroge, tu le disais, un territoire comme étant un commun, est-ce que c'est là que effectivement il va y avoir une déclinaison différente de la façon dont tu vas déployer derrière.
Mais tout à fait. En fait, je pense que l'idée du film c'était d'ouvrir vraiment à la réflexion. Et d'ailleurs, au cours des débats qu'on a commencé à organiser suite au film, l'idée c'est de faire venir des activistes ou des acteurs locaux qui s'intéressent à la façon dont on habite les territoires, à la façon dont on cultive, parce que tel que l'on produit aujourd'hui, et dans le but simplement de produire plus, on ne peut pas prendre soin. On ne peut pas s'intéresser à de nouvelles formes, peut-être justement de faire en commun, comme j'ai pu le rencontrer dans ces pays-là. Donc on a une machine qui écrase tout sur son passage, mais il y a non seulement des communautés qui ont encore des savoirs ancestraux qui nous seraient extrêmement utiles. Là, dans les 2 pays où je suis allée, les gens ont perdu une pharmacopée.
Ouais.
Qui leur permettait de survivre à tout un tas de situations. Et en échange, ils n'ont pas accès à des hôpitaux, ils n'ont pas accès à des services de santé. Donc, ils se retrouvent extrêmement précarisés, alors que, d'après eux, en fait, ils ont découvert la pauvreté quand ces sociétés sont arrivées. Mmh. Et pourtant, on a toujours ce message de « oui, on va leur donner de l'emploi ou leur offrir quelque chose qui ne les intéresse pas
». Donc, on les prive, en fin de compte, d'un système qui fonctionnait bien.
Et de leur manière, en fait, de vivre, leur manière de voir l'existence et de la mettre en pratique. On leur impose une manière de vivre.
Les amis, on se retrouve la semaine prochaine avec Fanny Paloma Escobar, qui a une actualité brûlante, on peut le dire. Hein. Pilleur de terre, c'est ton long métrage, qu'on peut donc aller voir demain et après-demain au Rex de Tonneins, et qui sera donc projeté le vendredi 27 mars pour le Festival des droits humains. Ici, au Montreur d'Images, à Agen. Et ce qui est passionnant, c'est qu'on peut en discuter avec toi, que c'est une diffusion qui donne lieu aussi à des échanges et à un cheminement.
Exactement,
aussi.
Oui.
Et donc ça, c'est hyper intéressant. Donc, écoute, la semaine prochaine, les amis, moi, ce que je vous propose, c'est que vraiment, on aille au cœur de ce que tu fais, de ce que tu déploies comme énergie, parce qu'on a compris qu'il y a beaucoup, beaucoup d'énergie et beaucoup de conviction dans tout ce que tu fais. Mmh. Alors, c'est vrai que les artistes, ils ont toujours une conviction, mais là, il y a une part très sociologique, anthropologique qui ressort, et c'est absolument passionnant d'échanger avec toi.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine, Fanny.
À la semaine prochaine.
Fanny Paloma, moi je t'appelle Paloma dans la vie, c'est trop beau. Et nous les amis, on se retrouve juste après le top de la musique sur Radio Bulle. On poursuit la matinale tous ensemble jusqu'à 10h.